voix marseillaise. Laetitia Sariroglou a été durant près de trois décennies une journaliste chevronnée qui a couvert des centaines de procès au pénal. Elle travaillait jusqu'en 2023 pour le quotidien bien connu La Provence. J'ai voulu en savoir un peu plus sur son parcours, lui laisser raconter et compter sa carrière de spécialiste judiciaire dans un quotidien régional, loin des rédactions parisiennes.
Je suis née à Marseille, j'ai 52 ans, j'ai grandi dans les quartiers nord, à Saint-Antoine, avant de déménager dans la banlieue nord de Marseille. J'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence, je voulais devenir juge d'instruction, puis j'ai été attrapée par le virus du journalisme, donc j'ai commencé correspondante au Provençal, en parallèle de mes études de droit. Puis j'ai été embauchée en tant que stagiaire et envoyée dans le Vaucluse. Et j'ai fini par être titularisée à la faveur de la fusion provençale-méridionale. Je suis restée 3-4 ans dans le Vaucluse en tant que localière. Donc j'ai un peu tourné, hein, Carpentras, Orange, Avignon et surtout Carpentras. Je suis revenue dans les Bouches-du-Rhône et j'ai principalement couvert la chronique judiciaire et les faits divers. Donc Aix, Marseille pendant une dizaine d'années. Puis je suis revenue à Aix où j'ai été chroniqueur judiciaire et je couvrais particulièrement la cour d'assises. Et je suis partie en juin 2023 après plus de 27 ans de carrière.
Alors au début, vous visiez le métier de juge d'instruction après vos études de droit, et comment vous l'expliquez ?
Parce que j'ai toujours aimé les mystères, en fait, et enquêter. C'est ce qui m'a, depuis toute petite, moi à 12 ans, je lisais les Agatha Christie, les Gaston Leroux. J'ai toujours été attirée par les mystères. Alors pourquoi ? J'en sais rien. Ce qui m'attire, c'est pas forcément le glauque, hein. C'est pas les cadavres, c'est pas le sang, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le moment d'un passage à l'acte. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va basculer ou pas ? C'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. C'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre. Bon, on comprend pas toujours, hein. Même quand on suit des procès, on ne le comprend pas, il y a toujours une part de mystère qui reste. Le pénal, c'est une matière qui m'a toujours fascinée. Oui. Il y a des côtés qui se rejoignent, hein, de toute façon. Hein. Alors après, évidemment, quand on est journaliste, on n'est pas juge, on n'est pas policier. Hein, mais dans l'approche, oui, il y a une enquête de voisinage, être interpellé par la personnalité d'une personne, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et s'attacher aux faits, plus qu'à leur interprétation, mais s'attacher aux faits et essayer de comprendre ce qui s'est passé, oui.
Comment s'est faite cette bascule, finalement, à la sortie de vos études ?
Donc j'étais en droit jusqu'à la maîtrise, et en parallèle de mes études, j'étais correspondante locale pour le Provençal, pour la petite commune dans laquelle j'habitais. Ce qui m'a plu, c'est la liberté qu'on avait. Je me suis dit, bon, de magistrat, c'est bien, mais il y a une hiérarchie, peut-être que je ne vais pas supporter trop longtemps. J'ai un caractère assez... Enfin, j'aime bien ma liberté. Et le journalisme me correspondait beaucoup plus. Déjà, il n'y a qu'un horaire, c'est l'horaire du bouclage. Hein. Et on peut être la journée sur le terrain, seul, sans forcément rendre de compte. C'est le papier qui montre le travail qu'on a accompli. Donc, quand j'étais correspondante locale pour le Provençal, j'ai suivi un procès, hein, ce qui n'avait pas trop plu au titulaire du poste, hein, mais j'avais un procès qui concernait ma commune. J'y suis allée, je l'ai suivi et j'ai adoré ça. J'ai adoré couvrir un procès. Et je me suis dit, ben, finalement, c'est vrai que j'assiste à ce que j'aime. J'écoute des histoires assez dingues parfois. Et moi, j'ai cette liberté de pouvoir la raconter dans un article. Et ça, c'est vraiment... j'ai trouvé ce que je voulais faire, du moins pendant un temps. Enfin, j'ai fait ça quand même presque 30 ans, donc je ne m'en suis pas lassée tout de suite.
Vous n'avez pas eu le concours de l'école de journalisme ? Est-ce que c'est une chance ou pas ?
Alors au final, c'est une chance, parce que ça m'a permis d'être embauchée assez rapidement par la Provence au moment de la fusion. Sinon, j'avais 2 ans d'études et j'aurais pu rater cet appel d'air, en fait, parce que plusieurs personnes, au moment de la fusion, plusieurs journalistes sont partis, hein, parce que lorsqu'un journal est racheté, il y a une clause de cession qui s'ouvre. Donc là, plusieurs journalistes étaient partis, donc ils avaient besoin de main-d'œuvre. Hein, et j'étais là, puisque j'étais correspondante, et j'étais assez assidue. Donc j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance, et puis j'ai appris sur le tas. La plupart des journalistes à ce moment-là, qui étaient des jeunes journalistes embauchés, ne sortaient pas forcément de l'école et c'était pas forcément les plus mauvais. Voilà. Il y avait un journaliste que vous avez dû connaître, hein, Christophe Nobili, qui est aujourd'hui au Canard Enchaîné. Hein. Il n'avait pas fait l'école non plus et c'était un des meilleurs journalistes à la Provence quand on a débuté. Pour être journaliste, il faut de la curiosité. Et il faut de l'empathie. C'est pas des choses qu'on apprend forcément dans une école, quoi. Je les ai vus après, certains, ils sortaient un petit peu formatés.
Vous avez aimé travailler, j'allais dire, en local, comme ça, dans des petits villages, des petits lieux. Je crois que vous avez travaillé dans le Vaucluse et après les Bouches-du-Rhône.
C'est ça, exactement. Alors, je souris un peu quand certains journalistes, jeunes journalistes sortent de l'école et qui rechignent un peu à partir en local, qui préfèrent des rédactions bien plus prestigieuses, parisiennes ou autres, alors que le métier, vraiment, il s'apprend sur le terrain et dans les locales, pour rien au monde. Je referai un parcours différent parce que quand on se retrouve seul un dimanche à Cavaillon et qu'on doit écrire une page ou deux, ben, y a rien de plus formateur. Il faut vraiment se creuser la cervelle pour trouver des sujets, pour développer ses photos, parce qu'à l'époque on développait nos photos. Il faut monter ses pages, il faut relire, il faut gérer les correspondants, et puis on fait tout, la politique, l'économie, le social, la justice, les faits divers. C'est très complet et très formateur. Et c'est même aussi, je dirais, gratifiant parce qu'on a un contact direct avec les lecteurs. Le local, c'est le cœur du métier du journalisme.
À quel moment vous avez décidé de plus vous concentrer sur les affaires judiciaires et donc vous avez fini par devenir une spécialiste de la justice, suivre des procès ici
Moi, très vite, vu ma formation, j'ai toujours été attirée par ça, mais on reste dans la proximité. Ce sont des affaires qui se sont passées au coin de la rue, souvent. Donc après, on les retrouve soit en correctionnel, soit aux assises, mais ce sont des affaires micro-locales, de toute façon. Des voisins qui vont s'entretuer, une femme battue par son mari, c'est des choses qui se passent à côté et qu'on retrouve après au tribunal. Voilà, bien sûr, on est toujours dans la proximité. La justice, c'est la justice de proximité.
Et qu'est-ce qui vous passionne le plus quand vous suivez une affaire ? Quel est le ressort, l'angle qui vous attire ?
Mais moi, je suis toujours intéressée par l'histoire dans l'histoire. J'ai le souvenir d'une affaire... Il n'y a pas de petite ou grande affaire pour moi, mais de copains d'enfance du côté de Gardanne, ils étaient les meilleurs amis du monde. L'un finit par trahir l'autre sur fond de paranoïa et c'est une tragédie grecque. Et moi, c'est ça qui m'interpelle aussi. Comment deux amis qui se présentaient limite comme deux frères, comment l'un arrive à poignarder l'autre et à paniquer une fois qu'il a tué et à cacher son corps, à l'enterrer tout seul en pleine nuit en pleurant parce qu'il a tué son meilleur ami. C'est englobé sous le terme de narcomicide, mais il y a bien autre chose derrière. Quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres procès, d'autres affaires qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont particulièrement attiré ?
Avant de suivre un procès, je lis l'ordonnance de mise en accusation. Hein. Ce sont les faits, on va dire, résumés par le magistrat instructeur.
C'est souvent assez long, non ?
Ça dépend des affaires. Hein. Par exemple, l'affaire Pastor, là, il y avait quasiment plus de 400 pages, je crois. Et puis il y en a d'autres qui sont résumés en une vingtaine de pages. Des fois, les faits sont assez simples. Et puis, donc là, on a une petite idée. Et puis quand on arrive et qu'on écoute des débats, forcément, on évolue. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est arriver avec une idée, mais qui n'est pas arrêtée. Hein. Forcément, si la personne a été renvoyée devant la juridiction criminelle, c'est qu'il y a certaines charges. Et puis après, voir en fonction des débats et de l'évolution, et puis des interventions de la défense aussi, que ça peut basculer, et de voir qu'il n'y a pas forcément les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, que c'est beaucoup plus complexe. Moi, c'est les nuances qui m'intéressent. Un des tout premiers procès que j'ai suivi, j'étais toute jeune journaliste, c'était dans le Vaucluse, je crois que c'était peut-être une des premières affaires aux assises, parce qu'avant les assises dans le Vaucluse étaient à Carpentras, n'étaient pas à Avignon. C'était une jeune fille qui avait accouché chez elle et qui avait jeté son bébé dans le vide d'ordure à Cavaillon. Par chance, le bébé, c'était une petite fille, avait été retrouvée vivante par les pompiers. Et voilà, une des premières affaires que j'ai suivies. C'était pas l'affaire la plus évidente. Évidemment, quand j'avais lu les faits, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est monstrueux. Et au fur et à mesure, évidemment, des débats, je me suis rendu compte de l'étendue de la détresse de cette jeune fille qui vivait évidemment chez ses parents, qui n'était pas du tout au courant qu'elle était enceinte. Même elle, je pense, elle avait fait un déni de grossesse. Hein. Et accoucher toute seule dans sa chambre sans en informer personne. Et la seule solution qu'elle avait trouvée, c'était se débarrasser de son bébé comme d'un vulgaire déchet. Et de voir après toute la tristesse des années après qu'il avait envahi, et ce qui avait été formidable, c'est qu'elle avait renoué avec sa fille des années plus tard. Ce procès m'a marqué. C'est justement là que j'ai compris que les choses n'étaient pas toujours aussi évidentes qu'on pouvait le croire.
Et comment vous vivez un procès, j'allais dire, est-ce que vous réussissez à avoir le recul? Est-ce que vous continuez à avoir une vie normale, entre guillemets?
J'écrivais un papier tous les jours, hein, donc le fait de l'écrire, ça permet de le sortir, de sortir les émotions aussi qui vont avec, et de garder une certaine distance. Mais oui, il y a certaines affaires qui hantent, des enfants empoisonnés par leur mère au cannelloni, retrouvés dans le coffre d'une voiture. Cette affaire, elle m'a poursuivie pendant quand même quelques temps. Moi, je venais d'être maman. On se dit, mais comment on peut en arriver à des extrémités pareilles?
Mais par contre, vous dites que le verdict, c'est un moment particulier.
Oui, même si je ne suis pas concernée, parce que bon, il faut quand même se dire que le journaliste dans une salle d'audience, c'est celui qui a la place la plus confortable. Hein, quand j'entends certains se plaindre en disant, oh là là, ce procès est difficile, j'endors pas, bon, ça me fait un peu doucement rire, il faudrait quand même qu'il fasse autre chose. Le journaliste, c'est quand même celui qui a la place la plus confortable, encore une fois. Sa seule difficulté, c'est de sortir son papier, parce que l'accusé, évidemment, il est dans une place inconfortable, les victimes aussi, les avocats ont un enjeu, c'est de défendre ou de représenter leurs clients, les juges et les jurés ont cette pression de rendre justice qui n'est pas évidente, toujours pour un verdict, parce que le moment est quand même très solennel, un silence vraiment quasi religieux qui recouvre la salle d'audience avant le prononcé du verdict. On se réjouit jamais moi, en l'occurrence, je me réjouis jamais quand une personne part en prison, même si cela est très souvent nécessaire, hein, attention, mais moi, les applaudissements parfois après un verdict, ça me faisait bondir. On n'applaudit pas, on respecte une décision, et puis voilà, quoi qu'on en pense. Mais c'est déjà arrivé, des applaudissements, et le président les a de suite demandé à ce que ça cesse aussi. La justice, même si parfois elle a des codes du spectacle, mais ce n'est pas un spectacle.
should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta go sometime.
Regrettez le huis clos. Vous dites qu'il y a de plus en plus de huis clos maintenant et par rapport au passé, au début de votre carrière.
Oui. Ça, je trouve ça totalement hallucinant. Pour moi, c'est assez scandaleux que les journalistes soient de plus en plus éjectés des salles d'audience pour des raisons qui n'en sont absolument pas. Je comprends assez mal d'ailleurs le silence de mes anciens confrères. Le huis clos obéit à des règles. Évidemment, quand il s'agit de la justice des mineurs, c'est à huis clos et c'est entendu. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Lorsqu'il s'agit aussi de violences sexuelles, la victime peut demander à ce que ce soit au huis clos et c'est quelque chose qui s'entend. En revanche, pour des affaires de grand banditisme, de plus en plus, notamment le banditisme corse, les affaires ne sont pas jugées à huis clos. Alors on prend des arguments favouilles. La dernière fois, c'est un policier de la BRI qui refusait la présence du public et de la presse pour sa propre sécurité. Bon, ben, il y a des astuces. La plupart des policiers de BRI interviennent avec des cagoules. Ben, il n'a qu'à témoigner avec une cagoule, je vais dire, pour pas qu'on le reconnaisse. On va leur accorder le huis clos, alors qu'on va... On va obliger, par exemple, un habitant de cité à venir témoigner alors qu'il est terrorisé. Mais là, on n'autorisera pas le huis clos. On va demander le huis clos aussi pour un repenti alors que son nom est dans la procédure. Bon, je m'interroge parce que un procès d'assises, c'est le seul endroit où les enquêtes sont rendues publiques. où elles sont interrogées aussi par la défense. Et c'est le seul moment de savoir ce qui s'est passé au niveau d'une enquête, parce qu'auparavant, il y a le secret de l'instruction, on n'y a pas accès. Et là, du coup, la justice se rend dans le silence. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant. Alors qu'on ne veuille pas le public, c'est une chose, mais il existe quand même une chose, c'est le huis clos partiel, qu'on fasse venir les journalistes pour qu'ils rendent compte de la façon, d'un, dont les débats sont menés, et de deux, des questions qui sont posées par la défense sur certaines enquêtes.
Est-ce que c'est dû au travail des avocats, ça, le huis clos? Ça fait partie d'un procédé de défense?
Alors non, généralement, les avocats de la défense demandent assez peu le huis clos. Hein. Eux, au contraire, ils préfèrent que ce soit rendu public. Hein. Ce n'est pas le verdict qui est intéressant dans le procès. Hein. Ce n'est pas uniquement le verdict. Hein. Ce n'est pas vrai. C'est la façon dont se déroulent les débats. Ce sont les questions qui sont posées. Ce sont les failles et les carences, parfois, qui sont mises en avant. Alors après, oui, ça ne plaît pas. Peut-être que certaines carences d'enquête soient relayées dans la presse. Mais ça fait partie du jeu démocratique aussi. La justice doit être rendue de façon publique.
Parlons des affaires de drogue à Marseille, puisqu'on en parle maintenant depuis quelques années déjà. Quel regard vous portez sur ces affaires? Est-ce que tout le long de votre carrière, vous avez vu une évolution concernant ce banditisme-là? En plus, je crois que vous êtes en train de travailler sur une série actuellement pour la télévision, je ne me trompe pas, autour du trafic de drogue à Marseille, des narcomicides et tout ça.
Oui, alors effectivement, avec Amda Productions, hein, ceux qui ont écrit, réalisé et produit La conspiration du silence, hein, sur tous les dysfonctionnements de la justice dans Lyon, passant par les Fourniret, les Époux Dunant et Émile Louis. Donc la même société de production est en train de développer une série documentaire Narcorama pour France Télévisions. Et je travaille avec eux, je suis, on va dire, enquêtrice avec eux. Alors oui, il y a une évolution, mais on se rend compte en fait que c'est une boucle. Sur Narcorama, ils évoquent ce problème d'emprise de la drogue à Marseille qui n'est pas nouveau. Hein. Ça date de plus d'un siècle, hein. Bien avant la French Connection. Il y avait aussi des règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. La violence à Marseille a toujours existé, que ce soit la violence entre bandes rivales, la violence politique. Il ne faut pas attendre les années 2000. Hein. Ça, c'est une vue de l'esprit de penser que la violence est nouvelle à Marseille ou dans la société en général. Après, la nouveauté, c'est le banditisme, on va dire, de cité qui s'est développé avec la fin, on va dire, du banditisme corso-marseillais traditionnel, qui s'est développé en parallèle avec l'arrivée massive des armes, parce que le gros problème, alors oui, on va dire c'est la drogue, mais ce sont surtout les morts, et il y aurait peut-être moins de morts s'il y avait beaucoup moins d'armes. Et depuis la guerre des Balkans, la fin de la guerre des Balkans, les armes arrivent massives. Enfin, c'est très facile de se procurer une Kalachnikov. Et là, avec les conflits aux portes de l'Europe, je pense que la source n'est pas prête de se tarir. Quoi. Voilà.
Est-ce que vous connaissez, vous avez connu, fréquenté les bandes justement marseillaises qui sont impliquées? On parle des Blacks, des Gitans ou d'autres noms. Est-ce que vous avez pu, durant votre carrière, les approcher de près, savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, leur parler parfois à certains, aux familles, parce que c'était vraiment des clans assez importants. Est-ce que ça, en plus vous êtes des quartiers nord?
Quand j'y habitais, c'était pas encore le cas. Le banditisme était plutôt dans le centre de Marseille. C'était plutôt localisé quartier de l'Opéra, Andoum, voilà. Les fréquenter, non. Les approcher, oui, dans le cadre évidemment de procès d'assises. On ne peut pas trop se parler hein, pendant le cadre d'un procès, mais je me souviens d'un, hein, dont on va pas forcément dire le nom, hein, on ne va pas en faire la publicité, mais il m'avait demandé si je pouvais lui vendre un dessin, parce qu'il y a un dessinateur, Vincent Silas, qui m'accompagnait sur les procès, et à une suspension, il m'avait dit « Est-ce que je peux vous acheter un dessin ? C'est pour mon fils ». Donc, c'était un moment assez incroyable. Hein. Il est accusé d'avoir tué plusieurs personnes. C'était pas un tendre. Et là, je me suis dit, c'est quand même assez fou. Il risque la perpétuité et il veut acheter un dessin de lui pour le donner à son fils, quoi. Ils restent tous assez surprenants, voilà.
Est-ce que la famille, parfois, vous parle en tant que journaliste? Parce que quand même, vous avez un rôle important, les journalistes. C'est-à-dire, vous allez faire écho, médiatiser une affaire. Est-ce que parfois, pendant les pauses ou à la fin du procès, on vient vous parler, on vient vous dire des choses pour essayer que vous corrigiez ou modifiez, ou finalement, il y a peut-être une familiarité ou bien un rapprochement qui se fait malgré tout, à force de fréquenter les tribunaux?
Oui, ça peut arriver. Alors, des fois, c'est plus ou moins agréable. Hein. Des fois, certains peuvent tenter des pressions, de nous dire qu'on s'est trompé, qu'il faut rectifier avec plus ou moins d'insistance. Ce que j'ai moins connu, moi, quand j'étais journaliste, mais je vois certains de mes confrères mettre de moins en moins les noms des accusés. Moi, j'ai toujours souhaité mettre le nom, c'est un procès public. Enfin, surtout aux assises, ils sont accusés d'un crime, on leur reproche pas d'avoir volé une mobilette, quoi. Et c'est pas parce qu'on va mettre le nom de l'accusé qu'on va le jeter en pâture. Au contraire, ça nous oblige à rester... Alors, je vais pas dire objectif, parce que l'objectivité, pour moi, c'est un peu favouille, mais on va dire à rester honnête. Voilà. Et c'est pas parce qu'on va mettre uniquement les initiales que le papier va être forcément honnête. J'ai lu certains papiers de confrères, mettaient pas le nom, mais c'était des papiers de procureur, quoi. Certaines le mettent pas, non pas pour être malhonnête, hein, mais parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur dit « ne mets pas le nom, sinon il va t'arriver des bricoles ». Ça m'est arrivé aussi d'avoir ce genre de menaces. Je cédais pas à cette intimidation, mais les avocats aussi faisaient leur boulot. Ils allaient voir leurs clients, ils leur expliquaient que le journaliste faisait son travail et qu'il avait le droit de mettre le nom. Le nom est de toute façon affiché devant la salle d'audience, il est connu de tous, donc ce n'est pas un souci. Le souci, c'est ce qu'on met à côté de ce nom, rendre compte le plus fidèlement possible de la journée des débats. Alors il y a des journées qui ne sont pas favorables à l'accusé, hein, donc forcément ça va refléter la journée et le papier ne sera pas forcément agréable à la lecture pour l'accusé. Peut-être que le lendemain, la journée lui sera plus favorable. C'est ça un procès, hein. Les jours ne se ressemblent pas forcément. Et pour moi, mettre le nom aussi, ça ancre une histoire dans sa réalité. On met le nom, on met le lieu de l'endroit où les faits se sont passés, parce que si on met plus de nom, on met plus de lieu, toutes les histoires se ressemblent. Notre boulot, quand on est journaliste locaux, c'est justement faire de la proximité. Sinon, toutes les affaires vont finir par se ressembler. Il n'y aura plus d'âme, quoi, dans ces papiers.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Est-ce que parfois vous avez été tenté de faire une interview par avocat interposé d'un condamné ou d'une grande figure du banditisme ? Parce que moi, je suis de temps en temps ces affaires par curiosité, et à chaque fois je me dis, mais pourquoi on n'entend jamais l'interview de ce grand bandit-là qui passe pour la troisième, quatrième fois ? Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'avoir accès à lui ?
Déjà, oui, quand ils sont dans le box ou quand ils sont incarcérés, c'est difficile d'avoir leur interview. Après, la criminalité d'aujourd'hui n'a pas envie de parler aux journalistes. Ça, de toute façon, ça c'est quelque chose d'assez établi. Ça ne les intéresse pas. Sur le banditisme, on va dire, plus traditionnel, j'en ai eu quelques-uns. Antoine Cossu, à la fin de sa carrière, on va dire, quand il a sorti ses premiers livres, on est revenu sur son parcours et j'ai fait plusieurs interviews de lui. J'ai interviewé aussi Tchéki, le tueur du juge Michel. Alors lui, j'ai réussi à l'avoir, il était toujours en prison et j'ai fait son interview par téléphone.
Francis le Belge,
non. J'étais jeune journaliste, il était plus à Marseille, il était à Paris, donc non, mais bon, j'ai eu son beau-frère. Voilà. On a tout aux assises, en fait. Le procès d'assises, c'est deux parties. C'est une partie consacrée à la personnalité et une partie consacrée aux faits. Donc dans la partie consacrée à la personnalité, généralement, il y a un rapport psychiatrique ou un rapport psychologique, quand ils veulent bien s'y plier, parce que des fois, certains refusent de s'y soumettre, on a quand même pas mal d'éléments. Il y a des proches qui sont cités par la défense pour parler de l'accusé qui est dans le box. Donc on arrive à avoir quand même un environnement. Puis après, oui, bien sûr, l'avocat, on sait d'où il parle. Donc c'est une partie de la réalité. Mais aujourd'hui, effectivement, le banditisme est peut-être plus difficile à cerner. On connaît leur environnement. La plupart ont grandi dans les quartiers nord, dans des familles nombreuses, avec des pères souvent absents, des mères dépassées. J'excuse rien, hein, c'est juste le lien qu'ils ont tous, on peut le voir, hein, ils ont quasiment tous la même enfance, avec parfois, ils ont grandi au milieu des morts, hein, je pense à la famille Tyr. Hein,
vous avez bien connus, hein.
Ben, je ne les ai pas connus personnellement, je les ai bien connus dans les différentes juridictions, mais je veux dire, certains sont nés, ils avaient perdu déjà des oncles, des frères, et avec cette horrible méthode du barbecue, où on ne rend plus des corps, mais des bouts de charbon, on imagine mal aussi, je pense qu'on a mal appréhendé aussi ce que ça pouvait faire sur les frères et les petits cousins, ce choc de ne pas pouvoir se recueillir près d'un corps, quoi.
Mais est-ce que vous avez pu passer parfois du temps avec eux chez eux, entre deux procès, la famille tire, aller voir qui ils sont, boire un café avec eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous imprégnez un petit peu de l'atmosphère.
Non, c'est alors impossible. Moi, non, je dis pas que c'est impossible, mais moi, ça, déjà, quand je suis un procès, je vais pas chez les uns et chez les autres. C'est pas possible, que ce soit côté victime ou côté accusé. Enfin, pour moi, c'est pas mon boulot. Même je suis assez vieille école. Hein, tout ce qui se disait en dehors de la salle d'audience, pour moi, ça n'existait pas. Je rencontre d'un procès un avocat qui va me dire quelque chose entre deux portes, s'il ne le disait pas dans la salle d'audience, j'en tenais pas compte.
Alors, une chose aussi qui me marque, moi, dans le suivi de ces affaires, c'est qu'on voit très peu de photos de ces personnes-là. Ou parfois, c'est des vieilles photos de jeunes. Mais durant un procès, il y a l'article, mais il y a juste, effectivement, l'illustration par le dessinateur qui est là. Mais comment vous expliquez qu'on ne voit jamais des photos d'eux ? Ils refusent ? Il faut leur demander l'autorisation ?
Alors, déjà, il est interdit de prendre des photos pendant un procès. Voilà. Et ensuite, oui, bien sûr, et heureusement, ils peuvent choisir, dire oui ou non pour une photo. Certains refusent, d'autres acceptent.
Parfois, on voit des photos d'eux en train de sortir du tribunal. Il y en a quelques-unes comme ça.
Mais après...
C'est photos volées, non ?
Ah ben, c'est les photographes qui font leur travail. Hein. Voilà. Mais après, oui, ils ne posent pas devant les photographes. Ben, ce n'est pas très agréable d'être pris en photo avant ou après un procès. Je me mets un petit peu à leur place. Hein. Après, c'est le travail aussi du photographe de presse que d'essayer de prendre une photo. Mais effectivement, il y a très peu de photos qui circulent. Certains, hein, qu'on ne connaît absolument pas leur visage, ou alors on les découvre aux assises si jamais un jour ils sont interdits.
Bah oui, certains parfois ont 25 ans de carrière dans le banditisme et en fait, on n'a aucune photo d'eux.
Celui qu'on présente comme étant le boss de la Castellane, Mohamed Géa, aucune photo circule.
Mais ça, c'est quoi ? C'est parce qu'ils sont assez forts pour faire en sorte qu'aucune photo ne paraisse dans le journal ?
Ils maîtrisent très bien leur communication ou l'absence de communication.
Au niveau des justiciables, des procureurs, des avocats, est-ce que certains vous ont laissé un certain souvenir ? Est-ce que, voilà... Vous avez été marqué durant toute votre longue carrière quand même qui maintenant s'étale sur plus de 25 ans au niveau de la presse écrite, hein, de la PQR.
Bah, moi, celui qui m'a le plus marqué, évidemment, comme beaucoup de journalistes et d'avocats, évidemment, c'est Alain Mola. Les plaidoiries d'Alain Mola et les affaires dans lesquelles il intervenait, qui n'étaient jamais des affaires manichéennes, simples. La douceur de sa voix, l'intelligence de son propos, je l'ai rarement trouvé chez d'autres. Il y a eu aussi, attention, hein, il y en a d'autres, hein. Plus jeune génération, Denis Fayol ou Jean Boudeau à Marseille, pour ne citer qu'eux, parce que sinon je vais me faire des ennemis, parce que quand je les écoute plaider, qui arrivent à me bluffer. Parce qu'il y a toujours une grande humanité qui ressort chaque fois de leur plaidoirie. Et même s'ils défendent des personnes qui ont pu commettre des choses horribles, il y a toujours, ils arrivent toujours à trouver la petite part d'humanité, pas à l'exploiter parce qu'il n'exploite pas, mais justement à l'expliquer et puis à pousser les jurés à ouvrir leur esprit.
Et au niveau des justiciables, des personnes qui ont été condamnées ou qui font partie du grand banditisme ou qui en fait partie, est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui vous ont particulièrement marqué ?
J'ai le souvenir là tout de suite, par exemple, de cet homme qui avait poignardé une avocate à Marseille. Il avait commis un autre crime un petit peu avant ou un petit peu après, mais dans un laps de temps assez court. Il n'a pas prononcé un mot tout au long de son procès. Il avait une avocate commis d'office, il lui a interdit de parler, il lui a interdit de plaider. C'est un procès qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, parce qu'en fait, on ne savait pas qui on jugeait, quoi. Alors, il y avait des avocats qui étaient venus en robe soutenir l'accusation, quasiment. C'était quand même assez fou, là. C'est vraiment un procès qui m'a mis mal à l'aise. Et même j'avais de la peine pour son avocate, qui était empêchée de parler, qui était empêchée de faire son travail. Et il est parti, il a pris une grosse peine, je ne sais même pas si c'était pas perpétuité. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Et là, des experts psychiatres étaient venus dire qu'il avait eu une bouffée délirante, mais il y a eu 3 expertises, je crois, et la 3e disait qu'il était apte à être jugé, donc il a été jugé. Mais il y en a eu d'autres, comme ça. Je trouve qu'on dérive de plus en plus, que la folie fait peur. On ne sait pas trop si on doit les envoyer à l'hôpital ou si on doit les juger. Puis au final, on les juge, on les envoie en prison où ils ne seront pas soignés et qu'ils finiront par ressortir dans un état bien plus dégradé que celui avec lequel ils sont rentrés en prison, quoi. Et là, il y a une véritable carence de la société, je pense. Et il va falloir un jour une prise de conscience parce que les prisons... sont remplis de gens déséquilibrés. Alors certaines deviennent fous une fois qu'ils sont en prison, hein, mais d'autres rentrent sans borderline.
chaud, extrême et endurant, froid, dure la vie, mais est trop molle, trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie.
Constamment me mène. Et quand je pense n'avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Et puis quand je crois ma joie être certaine
et être au haut de mon désir,
il me remet en mon premier malheur.
Et nel piacere maggiormente.
Vous avez démissionné de votre journal, La Provence, en 2023, après 27 années de carrière. Pourquoi ?
Je suis partie quand Rodolphe Saadé a repris le journal. J'étais un petit peu lassée de tous ces hommes d'affaires qui se payent un journal pour avoir un peu plus de pouvoir ou un peu plus de visibilité, mais qui n'ont pas forcément une vision claire de ce qu'ils veulent faire du journal. Après tapis, c'était un peu la goutte de trop, quoi.
En même temps, vous dites que vous êtes très attaché à la PQR parce que vous considérez que c'est un outil démocratique, que ce n'est pas forcément les échos du bistrot du coin, que ça a quand même une certaine assise et une certaine importance.
Bien sûr. D'ailleurs, lorsque tapis a acheté le journal, avec une de mes amies qui était journaliste aussi à La Provence, Sophie Manelli, nous avons créé la seule et l'unique société des journalistes à La Provence. Alors d'abord, parce qu'on en avait un peu marre de ce Provence bashing des journalistes parisiens qui disaient que La Provence était un journal de bistrot. Alors oui, effectivement, on trouve le journal dans les bistrots, comme la plupart des journaux de PQR. Mais il y a des journalistes qui font leur travail. Et oui, la PQR est le premier journal de France, malgré tout. Et sans les journaux locaux, la démocratie locale a du souci à se faire. C'est pas depuis Paris que les journalistes vont venir suivre les conseils municipaux des petits villages. Pas tout, évidemment, va forcément être intéressant pour certains. Et encore que, les lecteurs peuvent se retrouver aussi. Et ça fait plaisir quand on met en avant le tissu associatif aussi, comme lorsqu'on relate du fait divers au coin de la rue. Et comme je le dis systématiquement, sans la presse locale, les journalistes nationaux n'auraient peut-être pas beaucoup d'infos. On est parfois un peu leur fixeur, quoi, quand ils débarquent dans le sud ou ailleurs. La presse locale qui disparaît, c'est un pan de la démocratie et qui meurt quand même. Donc cette société des journalistes, on l'avait d'abord créée aussi en réponse à ce Provence bashing, et c'était aussi et surtout pour prévenir la nouvelle équipe qui arrivait avec Bernard Tapie, qui avait des règles claires dans un journal, et que l'actionnaire, quel qu'il soit, ne pouvait pas tout faire dans les colonnes de son journal. C'était capital. Bernard Tapie avait fait déjà plusieurs déclarations à la sulfateuse dans les médias. On savait très bien qu'il n'aimait pas les journalistes, il ne se privait pas de le dire. Donc il fallait aussi marquer les limites et indiquer ce qu'il avait le pouvoir le droit de faire et surtout de ne pas faire.
Récemment, vous avez sorti donc un livre qui s'appelle « Disparu en chemin » chez Mareuil Éditions, qui raconte l'affaire de la disparition du petit Mathieu dans les années 80. Et cette affaire, pourquoi vous avez décidé de la traiter de façon profonde ?
Parce que c'est une affaire d'abord que je ne connaissais pas. Je l'ai découverte un petit peu par hasard en 2022, lorsque le Paul Cold Case de Nanterre a été créé. Moi, je m'étais rapprochée de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour savoir s'ils avaient des affaires qu'ils allaient sélectionner pour ce pôle. Et ils m'ont parlé de la disparition de Mathieu Albert. Donc, j'ai d'abord écrit un article pour la Provence. J'ai rencontré les parents. Et je me suis rendu compte que cette affaire, Mathieu avait disparu, mais il avait aussi été oublié. Donc j'ai voulu qu'on reparle de lui, et j'ai surtout voulu qu'on parle du combat de ses parents, Lise et Philippe, qui ont un courage exceptionnel. Ils ont passé plus de la moitié de leur vie à chercher leur fils, et à tirer la justice par la manche pour qu'elle n'arrête pas d'enquêter. À près de 80 ans, ils sont toujours là, toujours à Pérouls, ce petit village à côté de Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence, Mathieu a disparu de façon très très mystérieuse, et ils lâchent pas l'affaire, et parce que pour eux, renoncer serait trahir leur fils, et je voulais aussi rendre hommage à ce couple admirable qui ne cesse de se battre pour essayer de retrouver, alors non plus un coupable aujourd'hui, mais une trace de leur fils.
Et vous allez en faire un film ou une série pour la télévision?
Alors, toujours avec Amda Productions, basée à Villeneuve-les-Avignon, oui, je développe avec eux, je réalise la série documentaire qui sera destinée à France Télévisions. Et en parallèle avec Sophie Manelli, on écrit le scénario d'une série fiction basée sur la véritable histoire du seul et unique journal d'information générale créé, écrit, composé et dirigé par des femmes, la Fronde, qui avait été créée à la fin du 19e siècle et qui a contribué d'ailleurs à jeter les bases du féminisme bien avant les années 50-60, puis aujourd'hui la vague MeToo, et c'est une histoire formidable.
Merci Laetitia Sariroglou, au revoir.
Merci, au revoir.
Vous venez d'écouter Voix marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.
pense.